Bonjour les amis de la francophonie. Je vous parle de la côte est de l'île de Vancouver, plus précisément de Campbell River, la soi-disant capitale mondiale du saumon. Quand je suis arrivé au bureau du tourisme à Victoria en 1963, Campbell River se vantait d'être le paradis des pêcheurs. C'est l'année où je me suis établi ici avec mon mari Raymond. Au début, on s'est acheté un petit bateau d'une douzaine de pieds pour aller pêcher une fois de temps en temps. Mais ce n'était pas une passion, comme tous les Américains qui envahissaient le rivage de Campbell River avec leurs campeurs et leurs bateaux. À chaque année, même avant l'été, ils arrivaient avec tous leurs bataclans pour aller pêcher deux fois par jour, attraper le saumon et le fumer ou le mettre en conserve. À l'époque, on n'avait même pas besoin de permis de pêche. Aujourd'hui, il faut protéger le saumon car il se fait plus rare. Les pêcheurs doivent obtenir un permis et observer les règles en vigueur, mais cela ne semble pas gêner Quentin Stéphanie, un jeune Français de Normandie, ingénieur forestier qui est venu s'établir à Campbell River en 2017 à la recherche de grands espaces avec la mer et les montagnes. Quand je lui ai parlé, nous étions proches de son bateau au nom plutôt évocateur.
Mon bateau s'appelle Persévérance. On m'a donné ce bateau il y a quelques années qui était au fond d'un jardin avec de la terre et de la mousse dessus. Et j'ai pris ce projet qui était mon premier bateau. J'avais aucune expérience dans le domaine nautique. Je crois que la motivation d'aller pêcher m'a donné beaucoup de force et beaucoup d'énergie pour retaper ce bateau. Donc ça m'a pris du temps, d'où le nom de Persévérance. Ça m'a pris à peu près un an et demi, 650 heures de travail pour remettre ce bateau en état. Et aujourd'hui, il est en parfait état, oui.
Quand Quentin a quelques jours de congé, la première chose qu'il fait, c'est bien entendu regarder la météo et si le temps le permet, il sort Persévérance et si les conditions sont bonnes, il va à la pêche.
J'aime beaucoup la pêche pour plusieurs raisons. Tout d'abord, j'adore l'environnement. J'adore l'environnement de pêche. C'est souvent un moment convivial avec des amis et sans forcément aucun but précis. C'est-à-dire que quand je sors mon bateau, je m'attends pas à faire un score incroyable. Je m'attends pas à forcément toujours revenir avec du poisson. C'est vraiment dans l'histoire de tenter ma chance et puis on verra bien ce qu'on peut arriver à pêcher. Ce que j'adore aussi avec la pêche, je suis un chasseur aussi également. Ce que vraiment j'apprécie avec la pêche, c'est qu'on peut prendre du plaisir, pêcher un poisson sans forcément lui ôter la vie. Voilà, si le poisson est la taille réglementaire et effectivement on veut prélever un poisson de temps en temps, c'est un vrai plaisir bien sûr de pouvoir subvenir à ses besoins en prenant un poisson de temps en temps. C'est vrai que c'est un plaisir indescriptible. Mais on a la chance de pouvoir redonner la liberté et la vie à l'animal, chose qui est plus difficilement possible à la chasse bien évidemment. Mais voilà, on peut prendre du plaisir avec un poisson et voilà, pas forcément lui ôter la vie à chaque fois, et c'est vrai que c'est satisfaisant.
Comme vous le savez, chaque pêcheur a son histoire de gros poissons et Quentin ne fait pas exception.
La première fois en allant pêcher du flétan sans expérience avec un de mes copains qui avait jamais vraiment pêché de flétan non plus, on a regardé quelques vidéos sur YouTube, on a lu quelques magazines pour connaître un peu les coins, et c'est vrai que première journée de pêche et on attrape un flétan de 110 livres qu'on a dû relâcher d'ailleurs parce qu'il était au-delà de la taille réglementaire. Mais c'est vrai que c'était des moments incroyables, palpitations, on tremblait, on se regardait avec mon copain en disant mais qu'est-ce qui s'est passé là? Et c'est vrai que tout le voyage du retour pour retourner à l'embarcadère, on regardait en se disant mais C'est incroyable ça, c'est la raison pour laquelle on se lève le matin pour aller à la pêche. C'est pour des moments comme ça où on s'y attend pas et la nature et la vie nous réservent de belles choses. Et je vais dire que c'est même encore mieux qu'on ne l'ait pas pêché ce poisson, qu'on l'ait relâché. Parce que voilà, c'était vraiment un moment vraiment gravé dans notre mémoire, je m'en rappellerai toute ma vie, que voilà, on était deux pêcheurs sans expérience. Et effectivement, on s'est retrouvé avec un poisson que beaucoup de pêcheurs peut-être nous auraient envié, et sans forcément le savoir. Et c'est vrai que notre inexpérience nous a procuré un plaisir supplémentaire. La surprise d'avoir vu un poisson qu'on n'avait jamais pêché, aussi la sensation de se dire que oh là là, il y a quelque chose de gros au bout de la ligne. Sans le voir, c'est vrai que ça dure 10-15 minutes pour remonter un poisson de cette taille. Et c'est toujours un moment incroyable parce que, effectivement, ça pourrait être tout et n'importe quoi. Et il y a toujours la petite surprise de se dire qu'est-ce qui va être au bout de la ligne, quoi. Et c'est toujours un plaisir inouï.
Après cette première expérience bien gravée dans sa mémoire, Quentin a pêché d'autres filets de thon qu'il a pu savourer dans son assiette. Quentin pêche aussi le saumon, et voici ce qu'il pense de la réputation de Campbell River comme capitale mondiale du saumon.
Effectivement, quand on écoute les anciens, apparemment le Campbell River était un peu le paradis de la pêche au saumon il y a longtemps, mais ça reste une très belle place pour pêcher le saumon. Ça reste une très belle place, mais je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on fait avec les réserves de saumon qu'on a. Je pense que c'est très bien d'avoir des quotas. Je suis à 100% d'accord pour les quotas qui sont imposés. Je pense que si on veut avoir une ressource de saumon pérenne, il faut absolument qu'on limite les quotas. On a des gros saumons à Campbell River, qu'on appelle des taillis. Donc c'est des saumons qui font 30 livres et plus. On voit qu'il y a quand même un déclin dans la population de taillis. J'ai déjà pêché des taillis, je les ai toujours relâchés. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que souvent les gros saumons vont porter plus d'œufs, plus d'œufs en eux, donc vont être plus reproducteurs. Et aussi parce qu'on veut garder la génétique des gros saumons. Si les pêcheurs comme moi veulent toujours prendre du plaisir dans les années à venir à pêcher des gros saumons, il faut qu'on les préserve, il faut qu'on les relâche et garder cette génétique de gros saumons pour avoir une population de saumons stable.
Bernard Le Serre partage la préoccupation de préserver les stocks de saumon avec Quentin Siffny parce que lui aussi aime pêcher et manger du saumon. Alors Bernard est devenu bénévole en 2011 pour la Oyster River Enhancement Society, une closerie située dans le Bear Creek Nature Park entre Campbell River et la vallée de Comox. C'est un terrain de 184 acres avec 6 km de canaux que les saumons remontent ou dans lesquels ils hivernent. Nous étions sur le bord de la rivière Oyster quand Bernard Le Serre m'a expliqué le travail qui se fait à l'écloserie.
Bénévole à l'écloserie, ce qu'il y a de bien, c'est que tu peux faire ce que tu veux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'aiment pas tellement toucher les poissons. Et donc, pour eux, ils peuvent travailler dans le parc. Donc, on fait la maintenance des routes, des chemins, des panneaux de signalisation où tu te dis où tu es. Tu peux travailler sur l'élagation des arbres, le gazon, enfin, il y a toutes sortes de choses à faire.
Bernard a aussi été président de l'organisme pendant quelques années, mais comme il préfère toucher les poissons, il a décidé de retourner dans l'eau et de s'occuper de leur fertilisation. J'ai donc eu droit à un cours 101 sur la sexualité des saumons et leur cycle de vie.
Quand les saumons commencent à remonter, alors ça commence vers le mois d'août. Et là, il y a les saumons roses qui arrivent. Ce que l'on fait, c'est qu'on va dans la rivière avec des gros filets et on attrape ces poissons. On les charge dans nos camions avec les citernes et on les met dans des containers dans nos canaux jusqu'à ce qu'ils soient prêts à pondre. Donc, on sépare les mâles des femelles. On teste les femelles en leur appuyant un petit peu sur l'estomac. Et quand il y a un œuf qui sort, si on appuie sur l'estomac, elles sont prêtes. Et on fait pareil avec les mâles, on leur presse un petit peu sur le ventre et s'il y a du laitage qui sort, il est prêt. Donc ces poissons-là, on les sépare. Au lieu qu'ils meurent naturellement comme s'il va arriver, on les tue nous-mêmes. On les vide des œufs, on traie les mâles et puis on mélange ça et on fait une incubation artificielle, une insémination. Là, on met ça dans des tiroirs sur des petites grilles, tous les œufs qui ont été fécondés, puis avec un système d'eau qui passe dessus pour les garder humides et oxygénés. Une fois qu'on a fait ça, il faut attendre, ça varie avec la température de l'eau. Si l'eau est un peu plus chaude, il se développe plus vite, c'est froid, moins vite.
Après l'éclosion, les alevins grandissent, les bénévoles les nourrissent, puis ils sont relâchés dans la rivière au printemps, quand ils sont devenus des saumonaux.
On les relâche au moment où ils deviennent des smolts. C'est-à-dire que le poisson, le saumon, il naît dans une eau douce et il s'en va vivre dans de l'eau salée. Donc tout son organisme au départ est fait pour vivre en eau douce. Alors il y a une transformation qui s'effectue chez le jeune. Il devient un adolescent un peu fou, là, il commence à courir dans tous les sens, alors on comprend qu'il veut partir. Alors là, on les relâche et ils partent à la mer. Et là, leurs organes, là, comme leurs reins et tout ça, sont faits pour vivre dans l'eau saumâtre. Donc ils font leur vie et ils reviennent dans l'eau douce encore une fois. Mais cette fois-ci, leurs organes ne se transforment plus. Donc quand de minutes qu'ils remontent dans l'eau douce pour pondre et pour frayer, là, ils commencent à mourir parce que leurs organes se détériorent au fur et à mesure, et c'est pour ça que vous passez, vous les voyez avec des hématomes partout, et ils sont laids, ça sent mauvais dans la rivière. Et donc c'est là ils sont prêts à mourir. Ils se reproduisent et ils meurent tout de suite après.
Avec les explications de Bernard, on comprend mieux le cycle de vie du saumon, mais on ne comprend pas vraiment pourquoi la nature a tant besoin de bénévoles.
Le travail que l'on fait, ça devait être au départ un travail provisoire, parce que la rivière était morte en 1982 par là. Les compagnies forestières avaient fait du mauvais travail à l'époque. Donc ils avaient coupé tous les arbres, ils avaient pris du gravier, il n'y avait plus d'habitat pour le saumon. Et la rivière était un peu polluée aussi, donc il n'y avait pratiquement plus de saumon qui revenait. Donc on a emprunté les œufs d'autres écloseries, on les a amenés ici. Ils ont réintroduit les saumons dans cette rivière. Et alors, on a fait une forme de banque où on a des animaux qui sont sûrs de revenir parce qu'on les élève nous-mêmes. Parce que nous, ce qu'on a, c'est qu'on fait un retour de 90% de nos œufs ne meurent pas. Alors que dans la rivière, 10% survivent. Donc, on fait beaucoup plus de rapport que la nature, parce que la nature a été abîmée.
Les bénévoles n'ont pas les moyens ou le savoir pour restaurer la rivière Ulster, mais ils construisent d'autres canaux pour augmenter les chances de fécondation des quatre sortes de saumons qu'ils aident en leur donnant plus d'habitat. Leur travail est parfois critiqué.
Ce que vous faites, c'est bien, mais vous ne créez pas un animal qui est vraiment sauvage et prêt à se battre, parce que vous les nourrissez à la main, et ils voient des hommes, ils viennent, ils nous courent après, parce qu'ils savent qu'on a à manger. Donc, c'est pas la même chose que dans la nature. Ils sont beaucoup plus robustes dans la nature, mais moins de survie. Quand on les relâche, il faut qu'ils apprennent à survivre, mais il va y avoir de la perte pendant qu'ils apprennent, parce qu'il va falloir qu'ils se rendent compte qu'il y a des prédateurs. Jusque-là, ils n'ont pas tellement connu d'animaux. Parce que si vous regardez les canaux, plus loin, il y a des filets par-dessus pour pas que les hérons puissent venir. On a mis des grillages avec des plaques d'aluminium pour pas que les loutres ou les visons puissent rentrer les manger. Donc, ils sont vraiment bien soignés.
Bernard Le Serre est aussi bénévole pour les tours guidés de l'écloserie. Et vous invite à consulter le site de Oyster River Enhancement Society pour planifier votre visite. Des fouilles archéologiques du village des Premières Nations, situé à l'embouchure de la rivière Campbell, ont dévoilé un endroit de pêche installé de façon permanente depuis des millénaires. Le saumon fait partie de la nourriture de base pour les Salish de la côte et dans leur culture, le saumon est porteur de cadeaux et traité avec grand respect. Moi, j'ai appris à faire cuire le saumon plutôt qu'à le pêcher, mais j'ai surtout dépensé mes énergies à la promotion de la langue française à Campbell River en étant une membre active de l'association depuis ses débuts en 1978. Venez nous voir, Pauline Bélanger.